les industriels français, ils n'exportent pas des produits parce qu'ils ont peur que leur personnel qui va en Italie, il pourrait après retourner avec les problèmes évidemment viraux.
Le coronavirus a fait 11 morts en Italie, de quoi compliquer les relations commerciales entre entreprises françaises et italiennes.
Difficile aussi la situation des entreprises françaises présentes en Chine et surtout les plus petites. Hier soir, une réunion se tenait au MEDEF. Nous appellerons la représentante du comité France-Chine qui y participait.
Le virus inquiète de plus en plus en France et c'est aussi un sujet dans les cours de récré.
Moi, je pense pas que ce soit vraiment dangereux. Je ne vais pas porter de masque parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont contaminées. Ça sert à rien de paniquer avant l'heure.
Deux procès aujourd'hui, celui des époux Fillon pour des soupçons d'emploi fictif, mais aussi de l'ex-homme d'affaires Pierre Botton accusé de détournement de fonds.
Et puis le coup de griffe de la Cour des comptes à l'école polytechnique accusée de mauvaise gestion. Elle ne réclame pas aux anciens élèves le remboursement de leur scolarité quand ils partent dans le privé.
Dans mon cas, en 2012, on était uniquement engagé sur les 4 années de formation à l'école. On pouvait partir tout à fait dans le privé de manière totalement légale et sans devoir rien rembourser à personne.
Europe 1, 6h02. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Deux nouveaux cas de coronavirus en France et un bilan qui s'est encore alourdi en Italie. 11 morts, 3 nouvelles régions touchées, Toscane, Sicile et Ligurie.
Les pays frontaliers qui se sont retrouvés hier à Rome s'engagent à laisser les frontières ouvertes. Les fermer serait disproportionné. Malgré tout, la situation devient de plus en plus tendue sur le plan économique.
Oui, des centaines d'entreprises italiennes sont installées en région Rhône-Alpes et elles sont très inquiètes. Écoutez le reportage de Pierre Herbulo.
Il a eu le téléphone collé à l'oreille toute la journée. Avec l'épidémie de coronavirus, Mauro Vittorini s'inquiète pour la santé de ses entreprises associées. Il est le PDG d'IC Acier et achète 15 000 tonnes de métal par an dans le nord de l'Italie.
Il y a une inquiétude la plus complète parce que personne ne sait quoi faire dans les prochains mois.
Un mail qu'il vient de recevoir d'un collègue d'ArcelorMittal l'inquiète particulièrement.
Coronavirus France qui tourne.
Il y a des rumeurs de contrôle sanitaire aux frontières. Lui dit-on, uniquement des rumeurs, mais c'est révélateur de l'ambiance pour Annibal Fracasso de la Chambre italienne du commerce. Après la Chine, l'Italie devient le pays à éviter.
Les industriels français n'exportent pas des produits parce qu'aussi ils ont peur que leur camion, leur personnel qui va en Italie, ils pourraient après retourner avec les problèmes évidemment viraux. On restait bloqué là-bas.
Un festival culinaire italien en Bourgogne est déjà en sursis, prévient-il. Tout comme, et c'est symbolique, la présence de l'Italie et de son terroir au Salon mondial du tourisme la semaine prochaine à Paris. À Lyon, Pierre Herbulo, Europe 1.
En Chine, on déplore 52 morts ces dernières 24 heures seulement, plus de 2700 au total, mais c'est le plus faible bilan quotidien depuis 3 semaines, la Chine, où l'économie est quasiment au point mort.
Et c'est très compliqué pour les entreprises françaises présentes sur place. Il y en a plus de 2480 000 salariés au total. Une réunion se tenait hier soir au MEDEF pour examiner leur situation.
Bonjour Sybille Dubois-Fontaine.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Sybille Dubois-Fontaine de la Direction Générale du Comité France-Chine du MEDEF. Comment s'est déroulée la réunion hier soir?
Écoutez, le Comité France-Chine est expert de la Chine maintenant depuis 40 ans et on a accompagné plus de 500 entreprises françaises dans leur investissement en Chine. On a réuni hier nos membres afin de faire un point sur cette situation. Et pour elles, c'est extrêmement utile de pouvoir échanger les bonnes pratiques et de rappeler un certain nombre de fondamentaux dans leur gestion de la crise en Chine.
Alors comment ils la vivent, cette crise? Je crois comprendre que c'est particulièrement difficile pour les PME et les TPE.
Écoutez, il y a plusieurs éléments. Il faut d'abord comprendre que pour ces entreprises françaises dont je parle, elles embauchent en Chine plus de 250 000 employés. Ce sont des employés chinois, il y a des expatriés. Pour elles, ce qui était très important, c'est de nous rappeler qu'elles ont fait face, leurs équipes ont fait face à une crise inédite sur place et qu'elles ont avant tout apporté leur soutien et leur solidarité à leurs employés chinois sur place, aux citoyens chinois, au personnel médical. Et face à cette crise inédite, elles ont surtout salué les mesures robustes que les autorités chinoises ont prises. Faut pas oublier qu'à l'échelle d'un pays d'1,4 milliard d'habitants, on a eu près d'une France mise en quarantaine. Et que suite à cela, vous le disiez vous-même tout à l'heure, aujourd'hui, on voit qu'elles ont, en tout cas les entreprises, ont pu gérer cette crise. Elles ont dû prendre un certain nombre de mesures dans des secteurs très variés. Ce sont souvent les mêmes mesures, évidemment, qui ont été prises. L'arrêt des déplacements professionnels. Elles ont mis en place du télétravail. Elles ont évidemment, pour les services minimums indispensables que les entreprises, par exemple les banques, ont dû effectuer, elles ont mis en place des équipes réduites. Et finalement, évidemment, elles ont su gérer cette crise. Et aujourd'hui, si vous voulez, le cœur du débat hier, alors ça paraît en décalage avec ce qu'on entend aujourd'hui en Europe, mais le cœur du débat, c'était comment on se prépare pour la reprise de l'activité.
Merci.
Comment on va faire
pour après, le redémarrage, pour l'après, voilà, coronavirus. Sybille Dubois-Fontaine. Pour l'après, évidemment. Merci hein, d'avoir répondu en direct dans le journal de 6h à nos questions ce matin sur Europe 1. Vous l'aurez compris, hein, le comité France-Chine du MEDEF. Notons aussi cette information à lire dans les échos ce matin. 2/3 des entreprises françaises en Chine estiment que leur chiffre d'affaires pourrait chuter jusqu'à 50% au premier semestre de cette année. Le coronavirus, donc, ou Covid-19, selon son terme officiel. Et il est désormais au cœur de toutes les conversations, vous l'aurez compris, mais y compris pour les plus jeunes.
Oui, d'autant que les enfants qui ont séjourné dans les zones infectées sont priés de rester à la maison pendant 14 jours. Dans les écoles, on se pose beaucoup de questions. Les enseignants tentent d'y répondre sans inquiéter. Et ce n'est pas toujours facile, comme l'a constaté Victor Delande dans un établissement parisien.
Beaucoup de gens morts, tout le monde qui veut acheter des masques tellement qu'il n'y en a plus. Heureusement, nous, ça ne nous atteint pas.
Élise est en CM2. Quand on parle du coronavirus, elle n'a pas besoin de convaincre ses camarades Marius et Louane. Eux non plus n'ont pas trop peur.
Moi, je pense pas que ce soit vraiment dangereux.
Je ne vais pas porter de masque parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont contaminées.
Ça ne sert à rien de paniquer avant l'heure.
Elio, lui, s'inquiète pour une partie de sa famille qui habite dans le nord de l'Italie, en Lombardie.
Il y a beaucoup de cas qui ont été détectés en Italie, juste à côté où habitent mes grands-parents. J'ai un peu peur pour eux.
Depuis leur retour de vacances, lundi, leur professeur, Benoît Golitain, n'a eu aucune question sur le virus.
Vu qu'on n'a pas trop d'informations, l'école, c'est le genre d'information qui peut un peu dégénérer, stigmatiser aussi. Ça peut être inquiétant pour ça. Mais là, non, rien du tout, donc tant mieux.
Hier, les enfants ont reçu un mot à l'attention de leurs parents sur l'obligation de confinement pour les personnes qui reviennent des régions touchées. L'occasion pour ce professeur d'en parler et surtout d'éviter de paniquer ses élèves.
Et pour l'instant, vous le savez, jusqu'ici, ni vaccin ni médicament efficace. Et pourtant, on apprend qu'un traitement courant contre le paludisme montre des signes d'efficacité contre le coronavirus. C'est une étude clinique chinoise validée par le professeur Raoult. Il est infectiologue à l'hôpital de la Timone à Marseille.
Et il sera mon invité à 7h40. Je découvre avec vous le phosphate de chloroquine, médicament très utilisé, donc qui serait efficace. On va en parler. Ça ressemble à une bonne nouvelle. Est-ce qu'il faut déjà s'emballer, hein, si j'ose dire. J'en parlerai à Didier Raoult à 7h40.
Europe 1, il est 6h08.
Le procès des époux Fillon devait se tenir lundi, mais il a été reporté à cet après-midi. Cette fois, le tribunal de Paris va bel et bien se pencher sur les emplois fictifs reprochés à Pénélope Fillon.
Et un autre procès se tient aujourd'hui, celui de l'ex-homme d'affaires Pierre Botton dans les années 90. On se souvient de son combat pour changer la prison. Il se retrouve à nouveau devant un tribunal soupçonné d'avoir détourné l'argent de son association de lutte contre la récidive, Marion Dubreuil.
Pierre Botton sort de prison en 1996, transformé par 20 mois de détention. « La prison a sauvé ma vie », affirme-t-il. « J'étais en train de me perdre. Je n'avais qu'une valeur, l'argent. » L'ex-homme d'affaires repenti fonde alors une association, les Prisons du Cœur, qui deviendra Ensemble contre la récidive. Il attire de riches mécènes, les groupes AXA et Vinci, et des parrains de renom, Michel Drucker, Yannick Noah. Pierre Botton devient un interlocuteur des pouvoirs publics. Il est même chargé d'une mission sur le choc carcéral en 2010. Il y a 3 ans, il fait l'objet d'un signalement de Tracfin. Le service anti-blanchiment de Bercy détecte des transferts suspects entre le compte personnel de Pierre Botton et celui de son association. Le chantre de la lutte contre la récidive est aujourd'hui soupçonné d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers d'euros de dons pour les travaux de son appartement à Paris, sa villa à Cannes et des voyages de luxe. Pierre Botton nie formellement les faits et s'indigne que cette affaire remette en cause l'intégralité de son travail au profit des détenus.
Décidément, l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites n'est pas de tout repos. Les députés n'en sont qu'à l'article 2 d'un texte qui en compte 65.
Oui, hier soir, les débats se sont envenimés au point que les députés de la majorité ont quitté l'hémicycle pendant une trentaine de minutes, protestant, je cite, contre une litanie d'amendements sans aucun intérêt. du cinéma, a rétorqué l'opposition. En tout cas, l'ombre du 49-3 se rapproche. D'ailleurs, Édouard Philippe a été clair hier. Il est prêt à dégainer cet article qui permet de faire adopter le texte sans vote. Adrien Beck.
Le 49-3 peut-être, mais pas tout de suite. Avant d'utiliser cet article souvent présenté comme l'arme atomique de la Constitution, Édouard Philippe veut se laisser un peu de temps. Je trouve compliqué et difficilement compréhensible pour l'opinion de prendre acte trop tôt, a dit le Premier ministre devant les députés de la majorité. Décryptage d'un conseiller ministériel, on a tout intérêt à laisser pourrir un peu les débats pour montrer qu'on n'a pas le choix face à l'obstruction de la gauche. Édouard Philippe, pas pressé d'utiliser le 49-3, préfère donc attendre que l'opinion soit mûre. Mais en coulisses, l'exécutif, lui, se prépare depuis plusieurs semaines à cette option. Et si depuis quelques jours, l'examen dans l'hémicycle va un peu plus vite, on n'est pas dupe, les insoumis retirent des amendements pour faire croire qu'ils ne bloquent plus, dit un parlementaire. Alors le Premier ministre préfère cacher son jeu. Il l'a dit hier devant sa majorité. J'assume de ne pas dire au jour le jour ce que j'ai prévu de faire.
Europe 1, il est 6h11.
La Cour des comptes distribuait hier ses bons et ses mauvais points en matière de gestion de l'argent public. Il y a souvent plus de mauvais points que de bons d'ailleurs dans les rapports de la Cour des comptes. Bonnet d'âne pour la prestigieuse école polytechnique dont la situation financière est préoccupante.
Une mauvaise gestion liée notamment à cette pratique que vous connaissez peut-être, celle du pantouflage. Ces anciens élèves qui vont travailler dans le privé sans avoir honoré les 10 ans de service qu'ils doivent à l'État en contrepartie de leur scolarité gratuite. Mais la pantoufle maintenant, c'est fini. Il va falloir dédommager l'école. François Geffrier.
Imaginez faire un chèque entre 21 000 et 32 000 euros à l'école supérieure où vous avez fait vos études 20 ans plus tôt. C'est désormais ce que risquent les anciens élèves de Polytechnique s'ils n'ont pas passé au moins 10 ans au service de l'État. La facture peut tomber bien plus tôt car ils doivent avoir passé un an dans le public sur les 5 premières années de leur carrière. Charlotte a fini ses études l'année dernière parmi la première promotion concernée.
C'est un remboursement qui me paraît plutôt juste. On a été bien informés que c'est bien quelque chose dont on était au courant. Oui.
Avant cette réforme, il y a eu un trou pendant 15 ans où ceux qui allaient travailler dans le privé étaient libres, comme le raconte Maxime.
Dans mon cas, en 2012, on était uniquement engagé sur les 4 années de formation à l'école. On pouvait partir tout à fait dans le privé de manière totalement légale et sans devoir rien rembourser à personne.
Autre cas de figure, celui de Pascal, qui a cru à un moment qu'il devrait rembourser sa pantoufle, mais a finalement effectué ses 10 ans dans le public.
J'avais mis de l'argent de côté au cas où il faille payer. 30 000 euros à payer, comme dans le privé, je gagnais bien ma vie, c'était quelque chose que je pouvais faire.
Avec les nouvelles règles, Polytechnique va devoir nettement mieux suivre ses anciens élèves, recommande la Cour des comptes, car à terme, 7000 personnes devront rembourser cette fameuse pantoufle.
Et on va parler de l'école polytechnique. Alors j'écoutais les pantouflards en l'occurrence de Polytechnique. On sera sur un tout autre sujet, un peu poétique aussi avec mon invité inattendu. Une ancienne polytechnicienne qui a une double casquette, ingénieure, ça paraît presque évident, sortant de Polytechnique, et autrice de science-fiction également. Mon invité inattendu dans quelques toutes petites minutes. Un match de foot sur fond de coronavirus. Au moins 2000 supporters italiens qui sont attendus ce soir au Groupama Stadium en banlieue lyonnaise où se joue Lyon-Juventus de Turin. C'est le 8e de finale de la Ligue des Champions.
Et malgré la demande de plusieurs élus, le match n'a pas été annulé. La venue des supporters non plus. Reste l'enjeu sportif conséquent. La star Cristiano Ronaldo qui vise un 5e ballon d'or a de quoi faire peur aux Lyonnais. Cyril de la Morinerie.
Ronaldo ! En Italie, c'est la folie, Ronaldo. La star portugaise a inscrit 21 buts en 21 matchs. C'est monsieur un but par match. Pour Giulia Zonca, journaliste à La Stampa, un quotidien turinois, Cristiano Ronaldo est dans la forme de sa vie.
Beaucoup plus fort qu'avant, je crois, parce qu'il a trouvé de nouveau un championnat dans lequel il est la star absolue. Il a besoin d'être le plus regardé, le plus attendu. Je crois que c'est l'endroit pour lui.
Cristiano !
Le quintuple Ballon d'Or rêve de remporter la Ligue des Champions dans un troisième club différent. À 35 ans, Cristiano Ronaldo sera un danger permanent pour la défense lyonnaise. Mais il ne sera pas le seul, prévient l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia.
On ne peut pas avoir un plan anti-Ronaldo, parce que s'il faut un plan anti-Ronaldo, il faut un plan anti-Dybala, un plan anti-Higuain. Il y a trop de bons joueurs dans cette équipe pour résoudre les problèmes individuellement, il faudra qu'on les résolve collectivement.
Mais la Juve a perdu 4 fois cette saison, même avec Cristiano Ronaldo, la vieille dame n'est pas invincible. Lyon, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Et Lyon-Juve, une soirée spéciale sur Europe 1, tout à l'heure entre 20h et 23h30, ça va se passer au Studio Merlin, en public autour de Lionel Rousseau.
Lionel Rousseau, le service des sports, le Studio Merlin, le public d'Europe 1. Et une belle soirée de Ligue des Champions, c'est toujours la fête quand même quand on aime le foot, les soirées de Ligue des Champions. Hélène Zélani, c'était le journal de 6h, merci beaucoup. 6h30, on va retrouver Jérôme Lacroix. Et en ouverture du journal de 6h30, nous allons revenir sur L'affaire François Fillon, Pénélope et François Fillon 2017, ça paraît tellement loin. On va en reparler à 6h30.